Et on peut connaître le verset clé qui est le verset 23 du livre de Jean, puis verset 10, si quelqu'un veut le lire à Chilouba. Donc Job, au milieu de la souffrance, il a compris quelque chose quand même, même s'il ne saisissait pas tout. Il a compris que Dieu le mettait à l'épreuve. Et que la fin de l'épreuve arrivera comme de l'or. Voilà le plan de ce que nous allons voir maintenant. Une introduction. La place dans la Bible. Ensuite, on va essayer de comprendre le cadre de la vie de Job. Qui était Job? Ensuite, le résumé et la structure du livre. Les thèmes principaux. Nous essayerons de voir la typologie, c'est-à-dire comment Christ apparaît de certaines façons dans le livre. Comme il apparaît souvent caché dans l'Ancien Testament. Quelques autres thèmes et enseignements pour nos vies. Et à la fin, il y a quelques livres qu'on peut citer, mais et quelques versets importants. Alors, maintenant, l'introduction, nous l'avons déjà vue. Quelle place dans les Écritures? On a vu ce matin les Proverbes. Le livre de Job est aussi dans cette forme littéraire de ce qu'on appelle les livres poétiques ou les livres de la sagesse. Avec les psaumes, les proverbes, le cantique des cantiques et
l'Ecclésiaste.
C'est un chef-d'œuvre de la littérature. Même si c'est très ancien. Il y a de la poésie, des monologues, des dialogues, des termes juridiques, de controverses, de lamentations. Une grande richesse du vocabulaire. Et beaucoup de comparaisons avec la nature. Ça contredit aussi l'idée générale de l'évolution. Qui disent que les hommes et les textes très anciens sont très primitifs. Et qu'aujourd'hui nous sommes très évolués et très riches et très profonds. Ce livre était très riche et très profond. Et aujourd'hui, si on écoute beaucoup de chansons actuelles, le texte est souvent pas très riche. Il a une structure en chiasme. Alors, c'est une structure avec une symétrie inversée. Nous allons expliquer plus tard ce que
c'est.
Ce livre est cité par Ézéchiel et par l'épître de
Jean.
Alors on continue dans ce sujet. Maintenant, quel est l'auteur? Probablement Job lui-même. Qu'il aurait écrit pendant cette épreuve et, ou juste après. On peut lire le chapitre 19, versets 23 et 24.
mal.
Donc là, nous voyons que Job, au milieu de l'épreuve, il sentait que c'était quelque chose de très important. Et il sentait que c'était utile qu'un livre soit écrit sur son histoire. Ce qui a été fait et qui est parvenu jusqu'à nous. Certains se demandent si peut-être un de ses amis comme Eliu aurait aussi écrit le livre. Quoi qu'il en soit, il est probable que Moïse, quand il a fui d'Égypte, il a fui dans la région de Madian. Madian, c'est le nord de l'Arabie. Et il est très probable qu'il a découvert ce livre qui avait été écrit 800 à 1000 ans avant lui. Il l'a repris, il l'a peut-être mis en forme sous l'action du Saint-Esprit naturellement. Alors, nous allons maintenant nous attacher au cadre de vie pour comprendre dans quel cadre il vivait. Le cadre de la géographie. Le cadre de l'histoire. Le cadre socio-économique. Ça veut dire la vie sociale et la vie économique. Et aussi l'environnement général dans lequel. Premièrement, nous voyons le cadre géographique. Il est parlé du pays d'Outz. J'ai déjà dit probablement le nord de l'Arabie ou le sud de Edom. Edom, c'est au sud de la mer Morte, donc encore plus au sud. Le personnage de Outz était un petit-fils de Sem. Donc nous savons que Noé avait trois fils qui ont donné toutes les nations de la terre. Sem, Cam et Japheth. Alors c'est peut-être ce pays de ce petit-fils de Sem où habitait Job. Il y a aussi un neveu d'Abraham qui a ce nom. Il y a aussi cette région qui est citée dans les Lamentations de Jérémie. En plus, il y a des noms d'où venaient les trois amis, comme Eliphaz et Eliu, par exemple. Les deux villes d'où ils venaient, ce sont encore des lieux connus en Arabie Saoudite. J'étais une fois dans le sultanat de Oman, qui se trouve au sud-est de la péninsule arabique. Et j'attendais l'avion à l'aéroport. Et j'ai vu dans les cartes postales, il y avait un petit monument très vieux. Et c'était marqué tombe de Job. Il y a aussi une tradition dans ce pays. Alors peut-être il venait de là-bas ou peut-être il a fini sa vie là-bas, on ne sait pas. Alors c'est un peu difficile de voir la carte parce que le projecteur n'est pas très puissant. Mais vous remarquez l'est de la Méditerranée. Ici, on voit Israël. En haut, le Liban. Ici, vous voyez l'Irak aujourd'hui. Il y avait un ancien empire babylonien. Abraham, il venait du bord du golfe Persique, cette mer que vous voyez au bout. Et puis, l'Égypte, vous voyez ici. Et probablement Job était là. Oui, Pierre me montre, avec la flèche on peut voir. Donc l'Égypte, Israël aujourd'hui qui n'existait pas au temps de Job, l'ancien empire babylonien, ici c'est le nord de l'Arabie, et Madian on suppose dans cette région. Ou est probablement aussi le pays de Outs. Sur cette carte, il y a du temps des patriarches, les voies commerciales. De nouveau, vous voyez ici l'Égypte. Ici, vous avez la mer Rouge. Ici, vous avez Jérusalem. Probablement n'existait pas encore à l'époque. Ou alors une cité très antique, mais pas de juifs. Ici, vous avez l'Arabie. Et ici, vous avez Théma, qui est une ville qui était connue. Et peut-être un des amis de Job venait de cette région. Donc on suppose que Job vivait dans cette région du nord de l'Arabie. Maintenant, le cadre historique. Nous savons qu'il y a eu, pendant peut-être 1000 ans ou plus, une première terre qui a été créé. Et une forme de continent ancien du temps d'Adam et Ève et de ceux qui ont suivi. Ensuite, les hommes étaient tellement violents que Dieu a dû détruire la terre. Il l'a détruit par le déluge. Nous connaissons cette histoire où les eaux sont montées pour couvrir toute la terre. Tous les hommes sont morts, sauf une famille. Noé, sa femme, ses trois fils, et leurs trois femmes. 8 personnes qui sont sauvées dans un bateau. Et dans ce bateau, il était très grand. Parce que Dieu avait demandé à Noé de faire venir tous les animaux de la terre. Un couple de chaque principale sorte d'animaux. Alors, d'après les dimensions qui sont indiquées dans la Bible, il y a des chrétiens qui ont imaginé environ la forme de ce bateau. Ici, vous voyez à peu près la forme qu'il devait avoir en bois. Et ici, c'est ouvert pour montrer qu'il y avait 3 étages à l'intérieur. Et puis, on suppose, alors il y a naturellement des discussions entre les historiens, mais chez les historiens chrétiens, on suppose que ça a lieu environ 2500 ans avant. Lisons au Chine. Ça veut dire il y a 4500 ans. Lisons au chapitre 38, versets 8 à 11. Vous pouvez ouvrir un petit peu les fenêtres, 5 minutes peut-être, pour, dans le fond. Vous pouvez ouvrir grand pour que l'air rentre. Ici les autres. Merci.
La nuit, non, fermez.
Juste pour qu'il y ait de l'air.
Oui, et toi, là,
donc là, on voit qu'il est parlé de ce déluge qui n'est pas considéré comme très vieux. Il était connu à l'époque de Job. Un autre aspect de l'époque, c'est l'air glaciaire. Un temps très froid qui a duré environ 500 ans. Sur la carte, on ne voit pas très bien, mais c'est la carte du monde. Vous voyez dans le nord du monde que c'est tout en blanc. Et à l'époque, environ 30% des surfaces de la terre du monde entier étaient couvertes par de la glace. Vous voyez presque tout le Canada. Vous voyez l'Europe du Nord et le Nord de la Russie. Ici, tout ça, cette période, c'était de la glace. Et là aussi. Aujourd'hui, il reste environ 10% qui est couvert de glace dans le Nord ici. Et vous voyez que la glace ici n'est pas très très loin de l'Arabie. Donc le climat est très froid.
Donc,
à cette époque, il y a déjà des villes et des peuplades. C'est ce qu'on appelle le temps des patriarches. Mais on ne voit pas mention d'Abraham ou d'Israël. Donc Job a probablement vécu avant Abraham. On ne voit aucune allusion aux événements historiques qui sont situés après le chapitre 11 de Genèse. Nous n'allons pas lire le verset, mais dans verset, chapitre 31, verset 33, Adam est mentionné. Quel âge avait Job au moment des événements? On suppose qu'il avait environ 70 ans. Son père, il vit encore. Et il est mentionné des vieillards plus âgés que son père. On suppose qu'il est mort à 210 ans. Qui est un âge où qu'elles sont arrivées ceux qui ont précédé Abraham. Terach, le père de Abraham, est mort à 205
ans.
Il y a un personnage qui s'appelle Serug qui est mort à 230 ans. Un autre Réhu à
239
ans. De nouveau, ça contredit l'évolution qui disait que les premiers hommes, ils vivaient seulement peut-être
25-30
ans. Nous savons qu'avant le déluge, les gens vivaient plusieurs centaines d'années. Et ceux qui ont vécu le plus longtemps, ils ont vécu plus de 900 ans. Après le déluge, on voit l'âge diminuer rapidement. Du temps de Moïse, dans son psaume 90, Moïse dit que les plus forts, ils arrivent à 70 ou 80 ans. Ce qui est à peu près l'âge d'aujourd'hui de nouveau. Mais si on lit le livre des rois, on voit que c'était plutôt moins âgé les personnes. Beaucoup sont morts à 50 ou 60 ans. Pour ceux qui ne sont pas morts de mort violente. Alors on revient à Job et on estime sa période entre moins 2200 et moins 2000. Moins 2200 à moins 2000. Abraham, c'est environ moins 2000. Alors maintenant, le cadre social et économique. C'est une époque où il y a des nomades qui suivent les troupeaux et qui bougent. Qui vivent dans des tentes et qui se déplacent avec les troupeaux. Mais on voit qu'il y avait aussi de petites villes avec des maisons en dur. Et souvent autour des gens qui vivent dans les tentes.
Pardon?
Et aussi des gens qui vivent dans des tentes. Nous voyons que la ville où habitait Job, il est parmi les anciens et les chefs du village. Gros village ou petite ville.
Et
ils se tiennent à la porte de la ville pour juger des problèmes. C'était aussi habituel au temps des patriarches, et là on le voit aussi dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est 800 à 1000 ans plus tard, au temps des juges. Les fils de Job, ils avaient leur propre maison en dur. Mais lui-même continuait d'habiter dans des tentes. On ne sait pas si c'est parce que c'était par humilité. Peut-être parce qu'il avait en tout cas beaucoup d'argent pour se bâtir un palais. À l'époque, il y avait de l'élevage et de l'agriculture. Il y avait aussi des exploitations dans les mines. Au chapitre 28, verset 11, on voit qu'il y a des galeries dans les montagnes. Pour extraire le fer, l'airain, l'argent. Aussi l'or. L'or et les pierres précieuses. Il y a aussi des peuplades qui font des pillages. Il y a des groupes qui arrivent dans la région, par exemple des Chaldéens ou ceux de Sheba, et qui viennent voler les troupeaux. Vous remarquez, Sheba, c'est peut-être la même origine que la reine de Sheba. Celle qui avait visité Salomon. Il n'est pas mention de roi. Il n'est pas mention d'autorité centrale
encore.
Il n'y a pas de chef avec une armée officielle. Mais il est mentionné qu'il y avait des juges qui réglaient les problèmes. Il est notamment indiqué, c'est intéressant, pouvons lire le chapitre 31, le verset 11. Oui, si quelqu'un veut. Donc là, nous voyons que les juges, ils punissaient l'adultère. Donc c'était déjà clair de ne pas avoir allé avec un homme ou une femme qui n'est pas le sien. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'idolâtrie était punie. Noé, il connaissait le vrai Dieu. Et encore plusieurs générations après lui, on croyait au vrai Dieu, seul vrai Dieu créateur. C'est seulement petit à petit qu'on a commencé à faire des statues pour les adorer. Mais nous voyons encore qu'à l'époque de Job et dans sa région, les juges punissaient ceux qui étaient idolâtres. Donc c'est intéressant de voir qu'il y avait ce qu'on appelle un monothéisme. En général, on croyait en un seul Dieu créateur. Et c'est petit à petit que les punitions se sont tournées vers l'idolâtrie. Ou vers l'animisme pour croire aux esprits. Ce n'était pas le cas à cette époque. C'est aussi à l'envers de la théorie de l'évolution qui dit que les hommes primitifs croyaient dans des esprits et des idoles. Et que c'est seulement après, petit à petit, qu'est venue la croyance en un seul Dieu avec les monothéismes du judaïsme. Il y a aussi des hommes des cavernes qui sont cités. Est-ce qu'on peut de nouveau fermer pour voir un petit peu mieux, notamment l'image, et on peut rouvrir plus tard, merci. Donc, quand on apprend l'histoire à l'école, on lit qu'au début de l'histoire de l'humanité, les hommes habitaient dans des cavernes. Merci. Et que petit à petit, ils ont commencé de vivre dans des tentes et des cabanes et des maisons. Mais ce n'est pas ce que nous apprend le livre de Job. Ce n'est pas ce que nous trouvons à l'époque de Job. À l'époque de Job, il y avait des nomades qui suivaient les troupeaux dans les tentes. Il y avait déjà rapidement des petites villes avec des maisons en dur. Et à côté, il y avait des gens qui étaient peut-être plus pauvres et qui se cachaient dans les cavernes. Nous voyons ici, dans le chapitre 30, ils disent qu'il y avait des hommes qui étaient connus pour habiter dans des trous de la terre et des trous des rochers.
Mais
c'était comme des gens qui étaient chassés du pays normal. Peut-être qu'ils avaient volé, fait du mal, alors on ne les voulait pas. On les considérés comme des gens insensés. Donc c'était des gens, des hommes des cavernes qui vivaient en parallèle avec les autres. Quel était le climat à l'époque? Aujourd'hui, en Arabie, c'est un des endroits les plus chauds de la Terre. Non seulement il fait plus chaud qu'en Europe, mais je pense qu'il fait plus chaud qu'au Congo aussi. Ils ont des températures en été qui peuvent aller jusqu'à 50 degrés. Mais lorsque nous lisons Job, on se rend compte que ce n'était pas ce climat qu'il y avait à l'époque. C'est le seul livre de la Bible qui parle autant de neige et de glace.
Ça veut dire,
qu'il y avait des hivers qui étaient froids et humides, qui sont complètement inconnus en Israël et en Arabie aujourd'hui. On peut lire le chapitre 37, les versets 6 à 11. Ça nous indique des aspects du climat de l'époque de Job.
Mata pambuloba, ujiwambila kabiji mvula, ujiwuloka bitulu bitulu, ne mvula yangi iji iloka jikole ne, lokai, uji ukonyesha vyanze vya muntu yonzi, wa bantu bonso bakafukeye, bamanye mujimu wanji. Mujiba aji nyama ya mu kisuku iji ibwela mu bisoko menu ne iji ishala mu nikele yayi mvunde uji ufuma kusu mashika makole aji afuma kuno kumufuya wanzambi kuji kufatuka mapwe amashika mali akaji mapasalade aji akwatakana maya kati mapasalade akwatakana yeye ujiuusha matutu masike ni chitelele sente uji utangalasha jitutu janji jijini mwele wangula.
Kosa kidila. Donc là, nous voyons qu'il y a des vents qui viennent du nord et qui sont très froids. Nous avons vu que sur la carte, il y avait de la glace au sud de la Russie. Au nord et au sud, donc pas si loin des pays bibliques. Alors cette glace faisait venir des vents du nord très froids. Nous avons lu la largeur des eaux se resserre. Ça veut dire que les rivières se gelaient dans le bord. Et que l'eau qui continuait de couler visible, c'était au milieu seulement. Il y a un autre passage que nous n'allons pas lire, et qui parle de la glace aussi, de l'eau qui devient comme de la pierre, notamment au chapitre 38, versets 28 à 30, que nous n'allons pas lire maintenant. Il est dit que les eaux se cachent sous la glace. Il est même dit que la surface de l'abîme se prend. L'abîme, c'est en général le mot pour la grande mer. La mer la plus proche du pays de Job, c'était la mer Rouge. Alors il est possible que certains hivers, même la mer Rouge était en partie prise dans la glace. Il est parlé aussi des lits des torrents qui sont troubles à cause des glaces. Il est même fait mention de la possibilité de se laver avec de l'eau de la neige. Probablement dans les tentes et dans les maisons, on allait récolter de la neige. Que l'on faisait fondre et qui représentait de l'eau pure. C'est ce que l'on fait dans les pays très au nord aujourd'hui. Les populations qui vivent dans la simplicité, comme les Esquimaux au Canada ou au Groenland, ils font fondre de la neige et ça leur donne de l'eau pure pour se laver et se nettoyer. En plus, on voit que dans cette époque, il y avait beaucoup de catastrophes naturelles. Il est parlé de villes ruinées d'un coup. Nous pouvons lire chapitre 12, verset 15 de Job. C'est comme la description d'un tsunami, c'est-à-dire une grosse augmentation de la montée de l'eau qui dévaste les côtes.
Uji watu makabichi ne aji abumbula buloba.
Ça c'est typiquement la description d'un tremblement de terre vers la côte, dans l'eau. Dans un premier temps, ce tremblement de terre va aspirer l'eau de la côte, qui va comme s'éloigner de la côte. Et dans un deuxième temps, il y a une masse d'eau énorme qui va revenir vers la côte. Il y a ça qui est arrivé au Japon il y a quelques années. Et ça a été une catastrophe parce que ça avait touché des usines nucléaires. Il est plusieurs fois fait mention dans Job de séisme, de tremblement de terre. On ne va pas le lire, mais au chapitre 34, verset 20, c'est dit, ils mourront en un moment. Tout à coup, dans la nuit, il y a même des peuples puissants qui disparaissent, qui s'en vont. On peut lire aussi le chapitre 9, versets 5 et 6. Merci. Donc, il est aussi fait mention non seulement de tremblements de terre et qui font trembler le sol, mais même des montagnes qui sont déplacées et des portions importantes de terre qui sont renversées ou déplacées de leur endroit. Là, je lis ce qui est ce verset qui est indiqué au chapitre 14. Une montagne qui s'éboule, qui est réduite en poussière.
Hein,
des gros rochers qui sont transportés de son lieu. Des eaux qui usent les pierres. Leur débordement emporte la poussière. Ainsi tu fais périr l'espoir de l'homme. Donc il y a des peuplades qui s'établissent dans des endroits, qui construisent des villes, qui... Mais tout à coup, en peu de temps, il y a carrément des montagnes qui sont réduites en poussière. Des eaux très puissantes qui vont même jusqu'à déplacer et user les pierres. Dans l'histoire géologique, on sait qu'il y a une époque où les continents, ils ont bougé. On pense même qu'il y avait, dans des temps très anciens, un seul continent. Qui s'est après déchiré en plusieurs parties. Si on regarde une carte géographique, on voit que l'Amérique du Sud et l'Afrique pourraient s'emboîter. Et c'est possible que dans des temps très anciens, c'était ensemble. On suppose aussi que l'Inde a dérivé dans l'Asie. Et que cela aurait créé les grandes montagnes de l'Himalaya. On pense aussi que l'Italie est rentrée dans l'Europe. Et que cela a créé les grandes montagnes des Alpes. Naturellement, la géologie des hommes fait remonter ça à des millions d'années. Personne n'était là pour savoir avec certitude. Mais il y a des géologues chrétiens qui pensent que cela pourrait être à l'époque du déluge. Et qu'après le déluge, il y a eu un temps d'instabilité terrestre très grande. Et il n'est pas impossible qu'au temps de Job, il y avait encore des restes de ces déplacements de terrain. En tout cas, ça correspondrait avec la description de ces montagnes qui bougent, de ces terres qui se déplacent et puis qui emportent des populations en une nuit. Maintenant que nous avons créé, essayé de trouver le cadre de la vie de Job, avec différents versets que Job décrit précisément dans le livre, nous allons essayer de connaître mieux qui était ce personnage de Job. Nous allons tâcher de voir quel était son caractère, quelle était sa profession et sa position sociale, quelle était sa manière d'agir envers sa famille, son attitude envers les faibles, envers les méchants, son attitude envers l'idolâtrie, envers les biens matériels et envers les femmes. D'abord son caractère. Lisons le passage du chapitre 29, versets 14 à 17. Et là, nous voyons que c'était très important d'être juste pour lui. D'être droit et honnête.
Nathan Wata, Boakane, Boutchouboa. Wagana gwanyi wakaji bu muzabi ne bu kitambala cha kumutu na kaji bumesu kujibantu bafofo na kaji bumakasa kujibantu balema na kaji butatu kujibakenyi na kakeba kujumulula na kakeba kujumulula chilungu cha mtu una kaji chimwanze umanya naka chibula neno akutinyanga amuntu muti naka nyanga chakakwata ye kukukole umeno anji vashishe nakambane nemfwile munsubu mwani nevudishe matuku anyi bu jinkwengenya ja buloba muji wanyi uji ulamba to nikumayi mume uji
ukwa. Alors là, nous voyons que cet homme qui ne connaissait rien de la Bible, il cherchait à plaire à Dieu, il avait une conscience sensible. Et encore aujourd'hui, il est même un modèle pour nous d'intégrité, de droiture et de justice. Maintenant, sa profession et sa position sociale. Il était à la fois agriculteur et éleveur. On voit qu'il était propriétaire de champs. Il était très riche puisqu'il avait un énorme troupeau. Entre ces différents troupeaux de chameaux, de brebis, de moutons, il avait 11 500 têtes de bétail. À l'Assemblée, nous avons de la chaude fonde où j'habite. Nous avons un frère qui est éleveur. Et il a une centaine de vaches, de têtes de bétail. C'est déjà un gros travail. C'est déjà beaucoup d'activités. Mais imaginez Job qui devait gérer plus de 11 000 têtes de bétail. C'est énorme. Donc, il fallait un grand nombre de serviteurs. Mais nous voyons qu'il essayait d'être juste avec ses serviteurs. On ne va pas le lire, mais je lis ce verset 13 du chapitre 31. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante quand il contestait avec moi. Donc on voit que ce n'était pas un dictateur autoritaire. Mais il acceptait que son serviteur ou sa servante conteste avec lui et dise ne sois pas d'accord avec lui. Alors il leur donnait ce droit et il ne méprisait pas leur point de vue. Nous voyons aussi qu'il est dit qu'il était le plus grand des fils de l'Orient. Donc, de toute cette région qui pour, si c'est Moïse qui a finalisé le texte, le nord de l'Arabie, c'était à l'orient de l'Égypte. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce terme, les fils de l'Orient. Il est dit qu'il avait beaucoup d'or, qu'il était très riche. Aussi beaucoup de nourriture. On voit qu'il vivait dans l'abondance de ce qui comptait à l'époque comme nourriture de qualité.
Mmh.
L'huile d'olive était une valeur importante. Et il était parlé aussi de beurre et de fromage qui étaient faits par ces bêtes. Il était aussi très considéré. On peut lire les versets 8 à 10 du chapitre 29. Ça nous montre que quand ils venaient dans un lieu, les gens le respectaient beaucoup.
Bakalekela kwa kula bakateka byanza kumishi kuyaba jikadika ija bene butungi ja bakuwa ninji miyabo ya kalamata mu bila kalaka byabo.
Donc nous voyons là que les jeunes, ils étaient intimidés et ils se cachaient quand ils arrivaient. Même les personnes âgées qui étaient dignes de respect général, quand ils arrivaient, ils se levaient. Un signe de montrer de l'honneur pour la personne qui arrive. Et même les princes de la ville, il se taisait quand il arrivait. Les nobles ne parlaient plus. Il y a même cette expression, la langue collait à l'intérieur de la bouche au palais. Ça, c'est une indication quand on est un petit peu impressionné, ému, qu'on n'arrive même pas à parler. Ça montre l'importance de Job. Alors il était aussi très concerné par sa famille. Dans les proverbes, on a entendu ce matin des indications que Dieu nous donne par rapport à l'attitude dans la famille. Il y a aussi quelques exemples intéressants dans Job. On voit au début du livre qu'il avait la crainte que ses enfants puissent développer de mauvaises pensées. Non seulement qu'ils fassent des actes mauvais, mais aussi qu'ils développent des pensées pas correctes. Et spécialement quand ils faisaient des fêtes. Alors, quand ils savaient qu'ils organisaient une fête, Ils donnaient des sacrifices. Parce qu'ils disaient peut-être qu'ils ont fait des pensées qui sont des péchés. Là aussi, c'est un bel exemple pour nous. Nous sommes déjà heureux quand nos enfants, nos jeunes ne font pas d'actes mauvais. Et Job va plus loin parce qu'il pense aussi à leurs pensées qui peuvent être mauvaises. Et c'est intéressant parce qu'il était conscient que les fêtes présentaient un danger pour ses enfants. Et ça nous parle aussi, lorsque nos enfants sont invités à des fêtes, on a des fois des craintes. On sait que c'est dans les fêtes qu'on peut se laisser influencer par d'autres jeunes. Avec la musique forte. Avec l'alcool. Peut-être même avec la drogue. C'est en général dans les fêtes que ça se manifeste beaucoup. Nos enfants sont des enfants de chrétiens. Et on va probablement essayer de les freiner d'aller dans des fêtes. Surtout si nous pensons qu'il y a un risque que ces fêtes tournent mal. Et à la fin des fêtes, il y a un gros risque d'immoralité. Qu'il commence des flirts ou des amitiés garçon-fille. Parce que l'ambiance de la musique forte et peut-être des boissons comme l'alcool, ça peut les conduire à aller faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire à l'origine. On sait que les soirées, la nuit, la danse, tout cela peut conduire nos enfants à s'éloigner de Dieu. Alors on ne sait pas comment étaient les fêtes du temps de Job.
Mais
Job se faisait du souci pour ses enfants. Quelle était l'attitude qu'il avait envers les faibles? On voit qu'il avait aussi beaucoup de volonté d'aider les faibles. Lisons le chapitre 4, versets 3 et
4. Mei ebe akudisha mtu wakati wamba kujishinda wakukolesha dinu jakati ditekete.
Donc là on voit que ceux qui étaient languissants, qui chancelaient, ça veut dire qui étaient dans une situation de faiblesse, il a regardé et les a aidés. De différentes façons, il était préoccupé par ceux qui étaient dans une situation faible. J'ai indiqué ensuite deux passages qu'on ne va pas lire maintenant. Mais je cite ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il aidait aussi ceux qui étaient aveugles. Ceux qui avaient des problèmes pour marcher avec les pieds abîmés. Il était aussi une aide aux pauvres. Et même si des gens arrivaient qui n'étaient pas connus, il examinait la situation. Il se préoccupait aussi de la veuve qui avait perdu son mari. De l'orphelin qui n'avait pas à manger parce qu'il a perdu le père ou la mère ou les deux. Il donnait du vêtement à ceux qui manquaient de vêtements chauds. Il donnait des peaux de mouton à ceux qui avaient froid. Et là, on voit de nouveau qu'il y avait des saisons froides. Où c'était un souci de n'avoir pas de manteau avec de la fourrure. Alors il dit, si moi j'ai pas fait cela, eh bien que mon bras soit cassé si je n'ai pas aidé tous ces gens. Donc il se rappelle quand il est dans sa souffrance toutes ces choses. Il dit, est-ce que je n'ai pas même été attristé par le pauvre? Il est compatissant, il a même pleuré pour ceux qui ont de la peine. S'il y avait des voyageurs qui passaient, eh bien il ouvrait sa porte pour pratiquer l'hospitalité aussi envers les étrangers. Maintenant, l'attitude envers les méchants. Il voulait qu'il y ait de la justice. Il était même assez sévère. Pour les gens qui étaient vraiment très méchants, il parle de briser la mâchoire. C'est probablement symbolique. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui profitaient de tenir une personne dans la faiblesse comme une proie, C'est pas le léopard quand il a tué l'antilope, il la tient dans sa mâchoire. Quand elle est blessée, il la tient jusqu'à la tuer et l'étouffer. Alors symboliquement, quand il voyait des personnes qui sont plus fortes et qui profitaient de leur force pour attaquer le faible et le tenir sous sa domination, alors lui, il essayait d'empêcher ça, de libérer la personne faible qui est sous l'emprise d'une personne méchante. Mais il ne se vengeait pas. Au chapitre 31, on voit que si un malheur arrivait sur ses ennemis, alors il ne disait pas avec sa bouche, bien fait pour lui. Il ne se réjouissait pas du mal de ses ennemis. Et il contrôlait ses paroles. Maintenant, l'attitude envers l'idolâtrie. Nous pouvons lire chapitre 31, verset 26-27. Là, nous voyons que, comme je l'ai dit avant, d'une manière générale, on croyait dans un Dieu créateur. Un seul Dieu qui était au ciel en haut. Mais lorsque les populations voyaient la nuit, la lune et les étoiles, le soleil la journée avec sa force, et il y en avait qui avaient tendance à vouloir les adorer. Et il dit, mais moi j'ai fait très attention de ne pas admirer ces astres. Ça aurait été quelque chose de très mauvais parce que c'était l'idolâtrie. J'aurais renié le Dieu qui est en haut. Donc là on voit qu'il y avait un début d'idolâtrie pour adorer la lune et le soleil. On sait qu'autrefois les populations d'Arabie adoraient la lune. D'ailleurs, il y a un reste dans les populations arabes qui ont encore la lune sur le drapeau. C'est un reste d'idolâtrie du temps où ils adoraient la lune. Maintenant, l'attitude envers les biens matériels. Il dit, je ne mettais pas ma confiance dans l'or. Nous avons vu qu'il était très riche avec ses troupeaux. Il avait beaucoup d'or. Sa main avait beaucoup, il avait beaucoup travaillé. On voit que ce n'était pas automatique qu'il avait hérité d'un père riche. Mais par son travail important, sa main avait beaucoup acquis. Mais il ne voulait pas se réjouir et mettre sa confiance dans ses biens matériels, dans sa richesse. Aussi, encore un exemple pour nous aujourd'hui. L'attitude envers les femmes. On voit qu'il n'avait qu'une seule femme. Il n'est pas du tout parlé de concubine ou d'avoir plusieurs femmes. Et ça, c'est aussi intéressant que, sans connaissance de la Bible, mais avec sa conscience aiguisée, il voyait que le chemin de Dieu, c'était d'avoir une seule femme. Quand il va tomber dans la grande souffrance, sa femme va malheureusement mal le conseiller. Elle va même lui conseiller de parler mal contre Dieu. Mais il ne l'écoute pas, heureusement, naturellement. Mais il ne va pas la traiter d'insensé et lui dire des mots méchants. Et il a aussi une attitude qui essaye de contrôler ses regards. Nous lisons encore le chapitre 31, le verset 1er. Qui est une... Donc nous voyons qu'il avait aussi un exercice pour ne pas se laisser aller dans ses pensées. Et quand il voyait une jeune fille, il ne va pas travailler ses pensées pour avoir des envies de cette jeune fille. On voit aussi, on ne va pas le lire, mais plus loin dans le chapitre, il dit qu'il ne m'a pas non plus commencé de laisser des pensées se développer au fond de son cœur. Pour se laisser attirer par une femme de quelqu'un d'autre. Il est dit, fais le guet à la porte de mon prochain. Ça veut dire qu'il ne va surtout pas chercher à la rencontrer, la voir, la séduire. Mais il va contrôler déjà son cœur et le fond de ses pensées. C'est donc aussi un exemple pour nous encore de tous les temps, pour tous les gens de tous les temps. De non seulement avoir une discipline pour nos actes, ce que nous faisons, mais aussi avoir une discipline de nos pensées, et de nos regards. Et ça, ce n'est pas facile aujourd'hui qu'on peut voir beaucoup de choses avec Internet. Il paraît qu'une majorité de tous les sites qu'il y a sur Internet ce sont des sites de pornographie. Donc c'est devenu un danger important parce qu'avec Internet, on peut regarder des choses mauvaises sur son téléphone. Sur son ordinateur et partout. Donc c'est devenu un danger plus grand pour tous les hommes, mais spécialement pour les jeunes. Donc nous arrivons à la fin de cette première partie. Donc en conclusion, nous pouvons dire que c'était un personnage qui était très conséquent, très fidèle. Très exemplaire, avec une conscience aiguisée. Et ça nous montre aussi un exemple de toutes les populations qui n'ont jamais eu de Bible. Encore aujourd'hui, même si l'évangile a été jusqu'au bout du monde, il y a des gens qui ne savent pas lire. Il y a des gens qui n'ont pas de Bible. Parfois des populations reculées. eh bien, chaque homme a quand même une responsabilité dans sa conscience. Il y a la création, et chaque homme est responsable de chercher le Créateur. Alors nous verrons demain, Dieu voulant, qu'un personnage comme lui, il mériterait une belle vie. Mais il va souffrir énormément. Il ne mérite pas la souffrance et pourtant il va souffrir plus que beaucoup d'hommes. Si vous avez un temps jusqu'à demain, vous pouvez lire les deux premiers chapitres. Et ça vous préparera déjà à cette analyse. Nous allons rentrer plus profondément dans le livre maintenant que nous avons vu l'ensemble. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez jusqu'à demain lire deux chapitres, les deux premiers chapitres de Jean. Et vous pouvez aussi lire le dernier chapitre. Ou les deux derniers si vous avez le temps.
Toi, ça qui dit là.
Merci. Super.